Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur, auditeur de Radio Silence. Pour ma chronique numéro 6, le titre représente une sorte de désespoir, mais enfin, c'est la réalité. La désinformation est totale. Dans l'actualité économique, je constate tous les jours à quel point la désinformation totale de la chose économique fait des ravages. Couplée à la flatterie des petitesses individuelles, elle devient une arme atomique capable de désintégrer la France et de réduire les Français à l'état d'esclaves. La crise, entre guillemets, explique tout. Postulée en mi-2008, la crise, toujours entre guillemets, s'applique à tout, pour tout et partout. Un sondage demande même si, du fait de la crise, entre guillemets, nos projets de vacances risquent d'être modifiés. Seulement voilà la première question logique qui vient pourtant tout naturellement à l'esprit. Prenez-vous chaque année ou prendrez-vous cette année des vacances? Est complètement oublié. Le sondage ne se pose même pas la question. On est censé toujours prendre des vacances. Il passe tout de suite au nombre de jours ou de semaines que l'on envisage. La question arrive alors, est-ce que la crise va impacter vos vacances? Notez bien la terminologie employée en pidgin. Quand on n'en prend pas, jamais, faute d'argent, on répond donc non, car il n'y a pas d'autre choix possible. Le sondage va traduire que la crise n'impacte pas nos habituelles vacances. Or, si cette fameuse supposée crise n'impacte rien pour nous, c'est tout simplement que de vacances, il n'y a point. Ce qui est tout différent. Ceux qui écrivent les questions des sondages ne savent rien de la programmation, de la logique, du bon sens, et finissent par obtenir ce qu'ils veulent, consciemment ou inconsciemment, c'est-à-dire des sondages bidons qui disent le contraire exactement de ce que veulent dire les sondés. N'attachez donc aucune importance aux sondages, d'abord idiots, ils sont ensuite utilisés pour vous manipuler, ce qui constitue leur seule raison d'être. Mon conseil patrimonial du jour. Lorsque j'ai fait partie de ce petit groupe de gens qui a tout inventé en matière de produits, entre guillemets, bancaires et financiers grand public, de haut de gamme, nous avions coutume de dire que les prospects avaient le choix entre deux démarches de placement de leur épargne. Soit ils l'attachaient à marée basse, au fond de l'océan, avec un filin d'une longueur fixe, retenant le radeau de leur pécule, flottant tranquillement à la surface de cette marée basse, soit ils ne l'attachaient pas et le laissaient flotter en surface en accompagnant les mouvements de l'océan et des vagues. Nager est pourtant naturel, mais peu de monde se fie à la loi naturelle qui nous fait flotter en surface sans rien faire d'autre que la planche, au-dessus de 12 km de fosse abyssale. Alors la quasi-totalité des gens préfèrent tomber dans le piège du flotteur retenu au bout d'une corde. En matière financière, cela équivaut à écouter et suivre la publicité d'hier d'AXA qui propose 4%, le filin, de taux fixe majoré, quelle bonté, de 1% pour appâter le prospect sur cette irrésistible promotion commerciale. Comme cela, le prospect devenu client est sûr d'avoir 4% de plus sur son livret chez ce commerçant, mais rien que ça. Pendant ce temps, AXA va faire les opérations telles que je vous les ai décrites les dernières fois, à 750% l'an, avec l'argent du client. Le vôtre. Où est l'escroc? Où est l'escroqué? Cherchez bien et vous allez très vite comprendre qu'il vaut mieux pour vous venir rencontrer un vrai conseiller financier expérimenté, plutôt que d'écouter les sirènes publicitaires des escrocs qui ont pignon sur rue. Celui-ci va vous emmener dans l'espace bénéfique de la loi naturelle. Bien sûr, vous flotterez, et suivant les marées, vous serez en bas ou en haut, et vous aurez quelquefois des turbulences et des vagues, mais sur la longueur d'une vie, vous serez au moment de la retraite à au moins 1000% de votre épargne annuelle cumulée, quand les victimes du système, elles, ne seront qu'à 65% au mieux de cette épargne annuelle sommationnée et cumulée. 65% au lieu de 1000%. C'est-à-dire moins que ce qu'ils auront mis. Cela vaut quand même le coup d'aller voir un spécialiste, par exemple comme moi, non? Et en cela, on retrouve ce que j'avais annoncé dans ma chronique de la dernière fois, c'est que l'avenir est toujours une sorte de miroir du passé, jamais semblable, mais pourtant toujours pareil. Regardons parallèlement à l'action de Julien, proconsul, pro-empereur des Gaules, de 331 à 363. Constantin créait le solidus d'or, qui fut l'ancêtre du sou. On commença à ce moment-là à comprendre que l'or allait devoir être réévalué par rapport à l'argent, plus répandu dans la nature. Mais dans quelle proportion, on ne le savait pas. Et tout le problème des 17 siècles à suivre était dès lors posé, celui du bimétallisme qui allait empoisonner la vie des peuples jusqu'au début du XXe siècle, avant de se transformer en poison de papier, reconnaissance de dettes souscrites par des banques à capitaux disparus, puis d'électrons, bien plus nocifs encore, qui ne matérialisent plus qu'à peine la formidable dévaluation monétaire. Errare humanum est, perseverare diabolicum, ô combien. Après la chute de l'Empire romain en 476, les luttes anciennes jusque-là contenues en Europe reprennent au point où les Romains les avaient fait cesser. Et oui, on n'écrase pas la réalité. S'ouvre alors la vaste et passionnante époque dite du Moyen-Âge, qui verra renaître la civilisation, appelée alors médiévale, sous la toison d'or. Puisqu'il n'y a plus d'État supranational, la Gaule mérovingienne s'émiette en une multitude de régions, provinces, qui ne sont souvent que des localités. Toutes se mettent à battre monnaie. Résultat, plus de 1500 émetteurs de monnaies diverses. La plus fréquemment utilisée fut le tiers de sou. Ce passé serait-il aussi notre avenir en 2009, à l'aube bien pâle de l'euro qui succède depuis 10 ans, après son aurore rayonnante. Alors même que nous voyons reproduire une construction supranationale, sans totalitaire, avec le traité de Lisbonne imposé de force, comme l'euro, nous pouvons sans aucun risque de nous tromper prévoir les mêmes effets futurs. Mais revenons en plus 476. La livre est alors réévaluée à 489 grammes, puis divisée en 2 marques, eux-mêmes divisées en 58 sous de 4 grammes 21,55 d'argent pur. La livre est toujours d'argent pur, mais apparaît alors ce fameux marque, ancêtre du marque allemand, et en même temps la nouvelle habitude de frapper tant de pièces au marque, ici par exemple 58 pièces le marque. Expression qui porte en elle-même le poids des dites pièces. Des centaines de générations d'écoliers vont dès lors se succéder à apprendre à calculer tous ces rapports jusqu'à l'extinction récente du certif, enterré par les gauchistes post-68ard. Il y a gros à parier que le fameux tiers de sou ne fut pas partout ni toujours fait d'argent pur, d'où une suspicion nouvelle sur la loi. Nous en reparlerons la prochaine fois avec les qualités requises d'une monnaie métallique. Différence nouvelle également, l'or, quant à lui, fut d'abord frappé à 40 sous par livre, un sou pesant donc 12 grammes 225 d'or pur, soit à 20 sous le marque d'or d'une demi-livre, puis par la suite à 18 sous de 13 grammes 58 d'or pur, soit une réévaluation du sou d'or de 11,11%. Entre un sou d'argent et un sou d'or, il y a une différence de poids de 3,22 fois. Donc l'or est estimé 3,22 fois plus rare et donc plus cher que l'argent. Nous n'étions qu'au début du processus du bimétallisme. Sous Louis IX, dit Saint-Louis, en 1266, la livre de Tours, dite livre tournois, ne pèse plus que 84,31 g d'argent pur. Elle est alors divisée en 20 gros deniers de 4,21 g. Chacun égalant donc le sou ancien datant de 7 siècles. Cette fois, c'est une originalité, c'est la monnaie divisionnaire qui est réévaluée et la livre dévaluée. La restitution du sou ancien au peuple vaudra à son roi une dévotion sans borne qui mènera à sa sanctification. La livre tournois vaut alors aussi 240 petits deniers, soit 12 pour un gros. Le terme de gros est d'ailleurs le nom donné à ce denier de Saint-Louis. C'est ce petit denier qui sera dévalué, et pas le gros, sous Philippe IV le Bel 40 ans plus tard, et le fameux Moyen-Âge, qui n'allait pas tarder à se terminer un siècle plus tard environ avec l'apothéose des cathédrales, livre une monnaie en circulation courante, égale donc à ce qu'elle était au moment de la chute de l'Empire romain d'Occident, et ce, malgré toutes les guerres et toutes les invasions depuis 800 ans, grâce à la centralisation du pouvoir régalien entre les mains du roi et à la disparition de la plupart des originalités monétaires locales. Le roi nomme alors des comptes, chargés de l'émission locale de la monnaie royale. Ces comtés donnèrent plus tard les comptoirs de la Banque de France. Le royaume, roidement et justement tenu, s'impose comme l'espace naturel d'épanouissement d'une vie en société. L'Empire sent alors la mégalomanie romaine. D'ailleurs, le mot venant du latin imperium signifie royaume étendu au-delà des frontières, comme le disait mon ami Paul Gare, le célèbre fait libre. Nous examinerons la prochaine fois en détail ce qu'est la monnaie métallique afin de bien mesurer la différence avec la monnaie reconnaissance de dette sur papier, puis la monnaie crédit, qui est une chose complètement différente, et enfin la monnaie électronique, elle-même encore complètement différente, dans de prochains épisodes. Je voulais vous dire aussi ce que c'est que le sou, le français, le franc français, pardon, jusqu'en 2002, en était le prolongement. Une pièce de 1 franc 1958 valait 20 sous et celle de 5 francs valait donc 100 sous. L'histoire continuait. Il y a eu une rupture totale de continuité historique avec l'avènement de l'abstraction baptisée euro. L'euro abstrait ne matérialise clairement qu'une seule chose. La révolution en cours de finalisation qui fait du passé table rase. Conformément aux vœux des révolutionnaires sanglants de 1793 et à tous leurs descendants, Lénine, Staline, Kemal, Pol Pot et nos chefs d'État actuels. L'euro est une idée totalitaire, sans aucun rapport avec les autres monnaies du monde, comme le dollar US actuellement, ou la livre sterling, ou le yen, ou le franc suisse, etc. Nous verrons cela dans la fin de notre histoire d'ici quelques épisodes. La prochaine fois, donc, la monnaie métallique. Aujourd'hui, nous voyons clairement que la désinformation est totale et que l'avenir est toujours, malheureusement, le miroir du passé. Cela dit, je vous quitte. À la prochaine fois. Bonsoir, madame. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir, monsieur et auditeurs de Radio Silence.